France Inter, Karine Bécard, Éric Delvaux, le 6-9 du week-end.
Bonjour Anne Muxel.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CNRS et vous publiez cet essai chez Odile Jacob, L'autre à distance quand une pandémie touche à l'intime. L'ambition de ce livre, c'était d'aller comprendre comment cette pandémie a percuté notre intimité et aussi quelles frontières intérieures il a fallu réinventer. C'est ça le but, le point de départ?
Oui, alors le point de départ de ce livre, c'est quand j'ai lu cette déclaration du directeur de l'OMS en juillet 2020 qui disait que avec cette pandémie, il n'y aurait pas, voire jamais plus. Ou plus, de retour possible à la normale. Alors c'est vrai que dans un avenir prévisible, disait-il, et cette absence d'avenir prévisible a ouvert en fait pour moi un abîme d'interrogations. Nous sortions du premier confinement qui était déjà très difficile et je me suis dit là il faut essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui se passe dans la vie relationnelle de chacun, ce qui se passe dans notre intimité, ce que ça va changer non seulement du rapport à nous-mêmes, mais aussi du rapport aux autres. Et donc j'ai décidé en sociologue de mener une enquête en chambre, ce que j'ai appelé une enquête en chambre, c'est-à-dire étant dans ces périodes de confinement, dans ces périodes de restriction d'échange avec les autres, de demander à mon entourage, dans des cercles de plus en plus éloignés, d'envoyer des témoignages de la façon dont ils et elles vivaient ce temps très particulier, l'irruption effectivement de la dangerosité, de la contagiosité de ce virus dans leur vie. Et voilà, c'est du coup l'objet de ce livre, que à la fois cette compréhension intime et personnelle de ce qui s'est passé, mais aussi ce vécu collectif et ressenti par l'ensemble de la population.
Avec un prisme qui revient régulièrement dans votre livre, c'est le mot distanciation physique, sociale, intime. Finalement, comment s'en sont accommodés les Français de cette distanciation imposée ?
Eh bien, ils s'en sont accommodés. Quand on regarde les enquêtes qui ont été menées très régulièrement, c'est vrai que une majorité de Français a toujours accepté, en gros, le respect des gestes barrières. Donc, ils s'en sont accommodés bon an mal an, obligés, parce que la peur était là. Il faut bien rappeler qu'il y a eu aussi une très grande anxiété collective qui a été vécue, une très grande peur qui a aussi mis à mal les relations avec les autres et donc qui a permis d'intérioriser la nécessité finalement de se protéger et de protéger les autres. N'oublions pas ce slogan, cette injonction paradoxale qui nous était envoyée par le gouvernement et le ministère de la Santé et qui était répétée en boucle sur les ondes de France Inter y compris. Si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas trop. Que faire avec ça pour ces mais il faut donc se tenir éloigné, il faut donc se tenir à distance. Donc tout cela a effectivement vraiment alimenté pour moi cette réflexion que j'ai voulu mener dans ce livre intitulé L'autre à distance. Voilà, comment faire pour s'aimer si on reste à distance?
Justement, prenons un exemple très précis, s'embrasser par exemple. On n'embrasse plus les mêmes personnes, on n'embrasse plus de la même façon, sans espièglerie. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Qu'est-ce que vous avez repéré?
Oui, c'est vrai que, en tout cas, s'embrasser suppose de franchir une barrière de méfiance, ce qui n'était pas le cas avant. En France, l'habitude de se faire la bise est effectivement un trait, je dirais, culturel
selon
français.
Les
ça n'existe pas forcément dans les pays. Et selon les régions, on en fait même plusieurs. Il y a tout un code autour des bises. C'est vrai que ça a tendance à maintenant avoir reculé. Alors certains, pour certains enquêtés dont j'ai pu recueillir les témoignages, voilà, c'est un manque, c'est quelque chose qui entame profondément la relation, parce que la relation doit être à l'autre, doit être d'abord basée sur la confiance. Donc dès l'instant où l'on se méfie, ça entame la relation. Pour d'autres, c'est un soulagement, ne plus être obligé d'embrasser, y compris des inconnus, quand on arrive quelque part, dans une réunion, dans une fête. Et pour certains aussi, ne plus être obligé de se serrer la main.
Mais la question, c'est un soulagement. Ce réflexe-là, il reviendra ou pas?
Alors, je pense, le fil conducteur du livre, c'est que quand même, probablement, il reviendra pas de la même façon. C'est-à-dire que certains ont peut-être trouvé les chemins d'avant, les chemins de les codes relationnels d'avant, mais je pense que pour une majorité d'individus, la méfiance va rester là et que probablement certains ont déjà renoncé à se toucher. Il suffit de nous regarder déjà maintenant dans notre vie professionnelle. Bon, on se serre plus tellement la main. C'est bonjour de loin, au revoir de loin, le coude, le poing, ou mieux le poing. Les codes ont changé.
Ce qui a changé et ce qui ne reviendra pas, c'est vrai aussi des pièces de monnaie et des billets. Le cash virus a mis ses pièces de monnaie et ses billets à distance. Là encore, ça risque d'être durable.
C'est la vie sans contact. Alors la vie sans contact, elle était déjà, elle commençait à s'installer. Hein. C'est vrai que la numérisation de tous nos actes de la vie quotidienne, c'était des choses qui étaient déjà en place. Même le télétravail était déjà en place. On utilisait de plus en plus nos cartes bancaires. Il y a aussi des pays dans lesquels effectivement il n'y a plus d'argent ou quasiment plus d'argent réel, si j'ose dire. La pandémie a accéléré. Accélérer ces mutations profondes, ces mutations technologiques profondes qui bousculent effectivement nos habitudes quotidiennes dans la société.
Alors, je rebondis sur cette vie sans contact aujourd'hui. Est-ce que dans la réorganisation de nos vies, personnelles, intimes et même professionnelles, est-ce que les Français se sont sentis infantilisés ? Est-ce que les mesures qui ont été prises, qui leur a été imposées, leur ont donné l'impression d'être déresponsabilisés ?
Alors on a beaucoup dit ça, et c'est vrai qu'il y a une minorité de Français qui se fait toujours entendre d'ailleurs, puisqu'il y a régulièrement ces manifestations anti-vaccins, anti-pass sanitaires, etc. Donc il y a une minorité de Français qui ont mis en avant effectivement cette question d'atteinte à des libertés fondamentales,
mais
à
leurs
libertés fondamentales. Mais infantilisation, je dirais que non. Bon, c'est vrai qu'il y a eu au moment, souvenez-vous, où nous devions remplir nous-mêmes nos autorisations de sortie. Bon, il y a eu effectivement toutes sortes de moments comme ça qui pouvaient être vécus comme une infantilisation, ou plus exactement comme une difficulté de compréhension de ce qui nous était demandé. Hein, il y a eu ces moments-là. Mais globalement, encore une fois, l'inquiétude était telle, et surtout l'inquiétude face à une situation inédite et face à un virus que l'on ne connaissait pas, que la résignation a quand même pris le pas, et que globalement les Français se sont sentis responsables, concernés et ont adopté ces mesures.
Avec des repères intimes bousculés aussi par les visages masqués, nos identités tronquées, comment a été vécu ce risque d'anonymisation ?
Alors le masque, oui, c'est quelque chose qui est effectivement et qui était très nouveau pour nous. C'est pas le cas dans certains pays, dans les pays asiatiques.
Ils sont plus habitués au Japon.
Les personnes sont très habituées à circuler en masque dans les transports en commun, à porter le masque dès qu'ils ont une petite infection, etc.
Souvent par respect pour les autres, d'ailleurs, au Japon.
Pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Ce qui est assez, le masque introduit effectivement cette interrelation où l'on se protège l'un l'autre, cette réciprocité finalement dans la protection. Mais au-delà de cela, oui, le masque tronque l'identité, parce que le visage est le premier élément d'accès finalement à la reconnaissance de l'autre et à l'identité de l'autre. Et un visage tronqué par le masque, ça change tout. C'est-à-dire que ça donne une prégnance au regard et ça trouble aussi la relation. C'est-à-dire on ne reconnaît pas si facilement que cela une personne. On en a tous fait l'expérience. On porte un masque, on croise son voisin, on croise quelqu'un qu'on connaît bien, voire même c'est tout proche dans la rue et on ne les reconnaît pas tout de suite.
Vous dites aussi que ça a surinvesti le regard. Avons-nous appris à nous regarder autrement ?
Oui, en tout cas on a été obligés de se passer du mouvement des lèvres, de tout le reste des signes dont le visage est porteur pour montrer ses émotions. Donc effectivement le regard est surinvesti, mais en même temps on sait que soutenir un regard c'est sans doute le plus difficile dans l'interaction, dans la relation. Regarder comme généralement regarder quelqu'un longtemps dans les yeux, ça suppose à la fois un effort, mais aussi du coup une mise en relation extrêmement profonde, intime, que tout le monde n'est pas capable de faire. Donc là encore, ça trouble la relation.
Alors justement, allons plus loin encore. Quelles sont les leçons qui ont été d'ores et déjà tirées par les Français? Est-ce que vous avez observé un certain nombre de mutations, de transformations? Est-ce qu'il y a plus de partage, au contraire moins de générosité? Est-ce que les Français ont commencé à changer?
Alors, difficile encore une fois de faire des réponses définitives, mais ce que j'ai pu observer et au travers effectivement de la réflexion que j'ai pu mener, c'est que oui, il y a d'abord une prise de conscience de la vulnérabilité. C'est vrai qu'on avait un peu oublié dans nos contrées, en tout cas dans nos contrées occidentales, dans nos sociétés, le tragique, en tout cas le tragique vécu à ce point collectivement. Cette conscience de la vulnérabilité face à un virus, de cette mise en danger de nous-mêmes, mais aussi de cette possibilité de mettre en danger les autres. Je crois que ça, c'est quelque chose qui restera et qui est profondément intériorisé. Deuxième chose, un changement aussi du rapport que l'on avait à la liberté. Tout à coup, sa liberté individuelle passait aussi par la nécessité de respecter ces principes qui concernaient le collectif, et donc la limitation de sa liberté individuelle nous a obligés à déporter la façon dont on considérait sa liberté. On n'avait plus exactement la possibilité de faire ou d'aller ou de voir qui on voulait, quand on voulait, où on voulait. Donc ça, forcément que ça a réinterrogé son propre espace de décision, ses propres désirs, et que ça a pu susciter beaucoup de frustration, de manque. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont souffert dans ce temps de pandémie, les jeunes qui se sont retrouvés par exemple coupés de leurs études, coupés de leur famille.
Mais en sous-titre, c'était on a changé en mieux ou en moins bien?
En autrement, je dirais. Il n'y a pas de. Ce n'est pas seulement une pirouette, mais je pense qu'il y a. On a pu changer en réflexivité. Je crois que tout cela va laisser des traces aussi dans la mémoire, dans la mémoire de chacun. Je pense que on n'oubliera pas cette période, si tant est qu'elle soit finie. Car on n'en sait rien. Et beaucoup de ces nouveaux comportements, de cette grammaire de comportement à laquelle on a dû s'habituer, persistent. Beaucoup de ces comportements sont amenés à durer. Donc, je crois que ce qui a changé, c'est que, cette pandémie va rester présente dans la mémoire individuelle, mais aussi dans la mémoire collective.
Et dans votre livre, Anne Muxel, vous rappelez que la pandémie a favorisé aussi la diffusion des thèses complotistes en tout genre. Or, vous ne semblez pas y donner plus d'importance que ça. Ça fait quelques lignes dans votre livre.
Quelques lignes, oui, quelques paragraphes, on va dire.
Le complotisme,
oui, non, c'était
on peut
pas,
compter
c'était
les pages.
Pas, c'était pas l'objet du livre, encore une fois, même si, bien évidemment, dans ce prisme de l'intimité qui a été mon fil rouge, évidemment que intimement, être porté vers une adhésion aux thèses complotistes, aux fake news, à la désinformation qui peut circuler. Bien évidemment que ça peut concerner l'intimité, les croyances et le système de croyances intimes, mais ce n'était pas effectivement le fil conducteur de
ce livre. À propos de complotisme, Anne Muxel, quel est votre rôle dans la commission que préside votre collègue Gérald Bronner, mise en place cette semaine par Emmanuel Macron, et vous avez 2 mois et demi pour rendre vos conclusions sur la lutte contre la désinformation et le complotisme dans le débat public. Quel est votre rôle dans cette commission?
Mon rôle est un rôle d'expert parmi d'autres, invité à siéger à cette commission. Gérald Bronner m'a invité à siéger à cette commission par rapport à tout le champ d'expertise qui est le mien sur les formes de politisation des jeunes générations, sur la socialisation politique, puisque c'est tout un autre aspect de mon travail, et donc sur aussi en tant que politiste la façon dont les réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux, du numérique d'une façon plus large, agit sur les usages démocratiques et de nouveaux rapports à la citoyenneté. Donc, Voilà.
Et vous avez peut-être lu dans les pages idées du journal Le Monde d'hier et d'aujourd'hui le commentaire, la tribune de la pneumologue Irène Frachon qui reste perplexe sur la nomination de cette commission d'un médecin, je ne vais pas dire son nom, enfin depuis des années et sans vergogne, dit-elle, il tente de nier le drame humain causé par le Mediator. Je rappelle que Irène Frachon a été la lanceuse d'alerte sur l'affaire du Mediator. Est-ce qu'à vos yeux, la présence de ce médecin porte atteinte à la crédibilité d'une commission justement sur la désinformation ?
Alors j'aurais du mal à me prononcer, car je ne connaissais pas moi-même ce médecin. Je ne connais pas ses implications. Je pense que là, c'est à Gérald Bronner qui préside cette commission de se prononcer, mais ce n'est pas à moi de le faire.
Alors au final, est-ce que la société française, sort plus fracturée de ce qu'on a connu là jusqu'ici ? Est-ce que vous réussissez ça à le mesurer ?
Plus fracturée et plus solidaire. Il est clair que la pandémie a à la fois fait ressortir les fractures sociales, économiques, territoriales.
Les inégalités, vous voulez dire.
Les inégalités, oui, qui existent dans la société française, ô combien dans la société française, et dont les épisodes précédents, et notamment les Gilets jaunes, l'action des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, voilà, a rappelé effectivement l'importance. Mais la pandémie a été aussi l'occasion de nouvelles formes de solidarité, d'invention, de réseaux d'échanges. Il y a eu aussi beaucoup d'entraide, de solidarité, d'initiative, d'inventivité à l'occasion de cette pandémie. Donc il y a eu aussi de très belles choses qui se sont passées les personnes.
La radicalité qui semble chaque jour un peu plus s'imposer dans le débat de société, dans le débat politique, d'où est-ce qu'elle vient ? Est-ce qu'il y a une part d'explication à aller chercher dans ce qu'on vient de vivre ou de ce que vit d'ailleurs encore aujourd'hui.
Pas directement, hein. Les phénomènes de radicalisation, de radicalité, auxquels on assiste dans les formes d'expression politique, cette crise de défiance à l'égard des institutions politiques, à l'égard de la représentation démocratique, elle n'est pas venue avec la pandémie. Ça fait quand même maintenant des années que dans notre pays, effectivement, un fossé s'est creusé entre les Français et leurs représentants, entre le peuple et les élites, pour aller vite. Mais simplement, comment dire, la pandémie, en rajoutant aux multiples crises auxquelles les Français devaient faire face, crise économique, crise sociale, crise politique, une crise sanitaire qui, en plus, vient se surajouter, a probablement encore renforcé cette insécurité, cette vulnérabilité, cette défiance à l'égard des institutions, et peut-être radicaliser encore la position de certains qui étaient enclins à ces réponses plus radicales.
Vous aviez d'ailleurs écrit en 2017 quelques lignes, plus que ça, quelques beaux chapitres sur la radicalité chez les jeunes. Aujourd'hui, 4 ans après, cette radicalité, elle s'est diversifiée, c'est bien ça qui est arrivé. On a parlé à la faveur de la primaire écologiste, de radicalité écologiste, de radicalité féministe, de radicalité sur toutes les sphères. Aujourd'hui, c'est un peu ça le phénomène. Il se répand partout maintenant.
Il y a une colère. Il y a à la fois une colère et il y a à la fois une demande de réponse, une demande de lisibilité aussi, de la société telle qu'elle sera. Il y a effectivement aujourd'hui une absence de lisibilité du futur, de ce que sera le futur, et beaucoup de menaces avec lesquelles on doit compter. Il y a aussi toutes ces menaces écologiques, il y a aussi toutes ces menaces géostratégiques. L'insécurité domine, et une des réponses à l'insécurité, effectivement, ça peut être la radicalité.
Merci beaucoup, Anne Muxel. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'autre à distance, quand une pandémie touche à l'intime. C'est paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup et bonne journée.